L'âge bête sur RCN.
Bonjour, soyez les bienvenus dans l'âge bête et bonjour l'équipe.
Salut.
Allez, c'est reparti, une nouvelle demi-heure et nous sommes le 10 mai, c'est parti, 15e émission aujourd'hui, ça passe vite hein, quand même.
Oh oui.
On a passé toute une saison ensemble et c'est pas fini. On va parler de plein de choses aujourd'hui encore dans l'âge bête. On aura le duel de génération, tu nous parles.
Lien intergénérationnel.
Tu vas nous expliquer tout ça dans un instant,
ouais.
Derrière ces mots barbares. On aura le quiz de culture générale, voilà, si c'est niveau aussi primaire comme...
Plus difficile que la semaine dernière.
Et ben on n'est pas rendu, c'était déjà assez compliqué comme ça. L'artiste de la semaine.
C'est Rétro Melon.
Voilà, la chronique histoire.
Les grandes découvertes.
Des grandes découvertes, et puis donc on a ton énigme, Alan,
bien sûr,
évidemment,
et puis qui vous fera regretter votre cruauté.
Et puis Clovis revient donc la semaine prochaine pour la chronique écologie, et puis une petite citation. Quand même à la fin. Voilà, c'est le programme de l'émission. Soyez les bienvenus sur RCN. On est ensemble jusqu'à 14h30.
RCN, l'âge bête.
Allez, top départ pour la chronique histoire de Clément et de sa question.
Et c'est ça, et on va commencer donc par la question traditionnelle. Selon vous, quelle est la nation qui a majoritairement essayé d'ouvrir une route maritime vers les Indes?
Les Indes.
Les Indes.
Les Portugal. Ouais,
alors, le Portugal. Allez.
Je sais pas pourquoi, trop d'entrain.
On est en forme aujourd'hui.
Voilà, donc on va parler de deux explorateurs notamment. On va commencer par Bartolomé Dias, donc un explorateur portugais des 15e et 16e siècles. Et ensuite, on va parler de Vasco de Gama, qui est lui aussi portugais, mais qui vécut uniquement au 15e siècle. Avant ça, on va remettre un peu en contexte. Donc l'Empire byzantin vient de tomber. Les Ottomans prennent peu à peu le contrôle de la Méditerranée, de l'actuelle Turquie à l'actuelle Grèce. Pour faire simple, bien... commence une quête d'une route des Indes maritimes et non plus terrestre pour éviter les impôts des Ottomans. En 1487, Bartolomé Dias part de Lisbonne, donc la capitale du Portugal, chargé par le roi du Portugal toujours d'aller le plus loin possible en longeant les côtes africaines. Trois mois après son départ, Dias a déjà atteint le point le plus loin connu par ses prédécesseurs explorateurs au large de l'actuelle Namibie. En continuant, après avoir dérivé vers le sud dans une tempête, il navigue vers l'est afin de retrouver l'Afrique. Il n'en saura rien puisque sans le savoir, Bartolomé Dias a dépassé la pointe méridionale du continent. Après avoir retrouvé le continent, il fait cap vers le nord, mais son équipage perd patience et il fait demi-tour.
C'est près du but.
Ouais. Bah, il a dépassé la pointe.
Oui,
voilà. Là, il est remonté de l'autre côté.
Oui.
Donc il est de retour à Lisbonne en 1488. Après avoir vu de ses yeux le cap des Aiguilles et le cap de Bonne-Espérance sur le retour, parce qu'il ne les avait pas vus en passant. Ce dernier mourut en 1500 des suites du naufrage de son bâtiment après avoir découvert avec Cabral le Brésil.
Et donc on va pouvoir passer au deuxième explorateur.
C'est ça, notre deuxième explorateur part près de 10 ans plus tard, en 1497, faisant face à des épidémies de scorbut et de dysenterie, donc c'est pas beau à voir. La caravelle du Portugais trace vers le sud après avoir passé Cap-Vert, puis revient grâce aux alizés vers les côtes. Ensuite, il prend une tempête et son navire subit une mutinerie, mais il arrive tout de même à franchir le cap de Bonne-Espérance. De Gama, une fois passé de l'autre côté de l'Afrique, tente de sympathiser avec les indigènes, mais ces derniers ne voient pas l'arrivée d'un navigateur européen d'un très bon œil. Il prépare des guet-apens pour les faire repartir, leur faire comprendre qu'ils sont mal vus. Dans la région de l'actuel Kenya, on lui prête un navigateur arabe qui a pour objectif de conduire le portugais vers l'Inde. Et c'est chose faite le 20 mai 1498, puisqu'il débarque à Calicut, dans l'actuelle ville de Kozhikode. Il repartira trois mois plus tard en prenant des otages nobles après des tensions avec les Indiens. Son deuxième voyage débute en 1502 et le navigateur part cette fois-ci avec 20 bateaux. Ce voyage est plus agité puisque son équipage bombarde le port de Calicut et brûle un navire de pèlerins musulmans en direction de la Mecque. Finalement, le roi lui donne tout de même le titre de comte de Vidigueira, mais son troisième voyage fut celui de trop et qui est de Gama mourut de la malaria en 1524. On peut dire que c'est quand même en quelque sorte grâce à ses expéditeurs que l'on connaît aujourd'hui aussi bien les océans et les mers, puisque c'est un peu grâce à eux que l'envie a été donnée au prochain, vient de découvrir, et c'est eux qui ont mené bien ces périodes des grandes découvertes avec les Christophe Colomb et compagnie.
Oui, c'est vrai, oui, en 1492.
Oui,
hein, c'est ça.
C'est ça. J'ai révisé pour le quiz de culture générale. Merci Clément pour cette chronique histoire. Et là, c'est parti. Avec toi, Othélie, on fait le duel de génération. Alors là, c'est lien intergénérationnel.
Ouais, déjà, c'est ça. Donc en fait, donc depuis, pour moi, c'est surtout ça, c'est depuis qu'il y a les EHPAD, les liens donc entre les générations, ils s'affaiblissent totalement dans les familles parce que on se sépare des doyens parce qu'on peut pas s'en occuper. Et donc, il y a des choses, des initiatives qui peuvent être mises en place pour un peu recréer tout ça, parce que j'avoue que moi, j'ai pas de relation avec mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, ils sont tous morts. Donc, j'avoue, j'ai aucun lien avec eux. Et donc, pour vous, déjà, est-ce que vous avez un peu des idées ou des choses que vous faites pour garder du lien avec les personnes âgées dans vos familles ?
Déjà, moi, j'ai mon arrière-grand-mère qui est en EHPAD et dès que je peux aller la voir, je vais la voir.
D'accord.
Donc, il faut que ce soit pas très loin aussi, en plus.
Oui,
c'est
ça,
souvent
aussi,
ça aussi qui sépare, c'est les distances aussi.
Donc, ça peut les visites, c'est ce que vous pouvez faire ou vous écrivez. Est-ce que vous écrivez, vous ?
Non, mais le téléphone, ça, non. Le
oui, c'est ça. Oui, on a nos numéros, quoi.
Oui.
Quand ils sont proches de nous géographiquement, on se voit régulièrement.
Oui, c'est ça. C'est surtout l'éloignement de toute ma famille qui fait que je vois personne.
Moi, ils habitent assez loin, mais j'arrive quand même à les voir assez fréquemment parce qu'ils sont en forme, donc ils viennent me voir, alors on va les voir.
Ah oui, c'est cool, ça aussi. C'est sympa. Bon, écoutez, donc j'ai déjà un exemple qui se passe dans le Pas-de-Calais. Donc en fait, il y a une école maternelle qui s'est installée dans un EHPAD. Au rez-de-chaussée d'un EHPAD. Et donc, en gros, toutes les semaines, il va y avoir des ateliers où donc, des personnes âgées, mais qui ont été un peu sélectionnées pour qu'elles soient quand même en forme et pas pour traumatiser les enfants. Ça fait mal au cœur, mais c'est vrai, la vieillesse, ça, c'est quelque chose. Qui vont rencontrer donc, les petits donc, de maternelle. Ils vont faire du dessin, des mandalas, enfin, les trucs que tu fais quand t'es petit.
Quand t'es petit, oui.
J'ai aussi trouvé un petit jeu de société que je connaissais pas du tout. Ça s'appelle 2 minutes ensemble. Et donc, en fait, c'est des discussions. Donc, c'est en gros le principe. C'est tu vas avoir une carte et tu vas poser une question bateau comme est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire dans la vie et on peut après débattre et discuter de tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas mal, une bonne entrée en matière quand tu connais pas les gens.
C'est vrai.
Ou même quand tu les connais pas assez. Donc évidemment, c'est pas aussi les seules initiatives. Donc je parle de ça parce que je connais un petit peu. Donc souvent, des personnes qui peuvent être seules, dans un appartement où il y a plusieurs chambres, elles peuvent louer une chambre à des étudiants. Je sais, ma sœur, elle a failli le faire. Et généralement, c'est en échange de quelques services. Donc, tu passes un peu de temps ou tu dois pouvoir faire à manger.
Pouvoir les aider aussi.
Voilà. Mais ça reste une bonne initiative pour les étudiants parce que ça reste...
C'est
sympa et c'est abordable. Voilà, ça peut plaire beaucoup. Et donc, par exemple, si les grands-parents ils savent pas trop utiliser donc les technologies, je sais qu'on me proposait pour l'EHPAD de ma grand-tante, c'est un journal en ligne, je crois. Tu le remplis avec des photos, des mots, tout ça, et ensuite tu l'envoies, c'est imprimé et c'est donné à la personne en EHPAD.
D'accord.
Donc ça, voilà, ça existe sous format papier. Et évidemment, le classique, mais que ça fonctionne bien, c'est la visite, même si je suis très mal placée pour en parler. Voilà.
Ouais, c'est vrai, ça dépend. Est-ce qu'ils sont aux EHPAD, dans les maisons de retraite ? Est-ce qu'ils sont encore chez eux ? Et j'aime beaucoup les étudiants qui puissent s'installer. Je trouve ça vraiment bien.
Ouais. C'est pas mal, ouais, ça permet de toujours parler. Puis c'est vrai que
c'est des générations différentes, donc chacun apprend aussi.
Beaucoup.
Ouais, très intéressant. Merci Otidi pour nous avoir parlé donc, des liens intergénérationnels. Et c'est vrai que là, c'est de beaux exemples partout dans le monde, aussi en France. Allez, on va parler culture dans 3 petites minutes avec ton quiz de culture générale. Tu nous as dit que c'était plus compliqué, donc je pense qu'on va faire un petit échauffement pendant la pause musicale des neurones. Et donc on revient dans 3 minutes, le temps qu'on s'échauffe. À tout de suite. From bam and died, Libby and God. I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Now did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? Nadie va a entender la paranoia. Vacío sin yo querer, sin yo querer. 'Cause you
olvido, no me dejes. A veces se ve gris el amanecer, pero hay cosas bonitas a agradecer. Llueve por dentro, pero no aparento. Quiero correr y alejarme de todo. Solo quiero luz, que mi paz mental no sea un tabú. El que se fue, que se vaya. Y lo bendiga, me sella. Solo necesito un break. Un break pa' mi corazón. Cause you see people, 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 people don't really know you.
RCN, l'âge bête.
Et il est 14h12 sur RCN, vous êtes bien donc dans l'âge bête, vous allez bien vous en rendre compte. C'est parti, c'est l'heure de se culturer, comme on dit toutes les semaines, et donc c'est parti pour le quiz de culture générale, Lucie.
Et bien comme la semaine dernière, 10 questions, avec okay. Des questions plus compliquées et d'autres questions qui ressemblent beaucoup aux questions de la semaine dernière.
D'accord.
Donc, c'est parti, commençons avec la première question. À quoi correspond la date du 8 mai dans l'histoire de France et de l'Europe?
L'armistice de la Seconde Guerre mondiale.
Exactement.
Définitive du coup.
D'accord.
Fin de la Seconde Guerre mondiale en
1945.
Le 8 mai correspond à la date de la capitulation allemande, de l'armée allemande. Seconde question, qui est le chanteur français le plus populaire?
Est-ce qu'il est vivant?
Bah non.
Goldman?
Il est mort.
Il est encore vivant.
Non, Goldman. Il est international.
Claude François.
Oui.
Donc qui est mort?
Je vais vous donner un petit indice. Allumez le feu.
Voilà, c'est Johnny.
Je sais même pas pourquoi il n'y a pas pensé tout de suite.
Bah en fait, j'y ai pensé, mais je me suis dit non quand même.
Parce que j'y pense pas.
Ouais, c'est
quand on a la réponse.
Vraiment international et tout.
International, c'est le premier chanteur à apporter le rock'n'roll en France, l'un des premiers.
Donc,
il était connu à l'international, Johnny. Troisième question, quel est l'animal terrestre le plus lourd du monde?
L'éléphant.
La baleine terrestre.
Dans l'océan, oui,
c'est la baleine bleue.
Du coup, l'éléphant, non, c'est pas ça?
Exactement, c'est l'éléphant d'Afrique avec un poids pouvant aller jusqu'à 6 tonnes.
Ouf, oui, bah ça
beaucoup.
Va.
Un beau bébé,
je ne peux pas porter.
Quatrième question, quelle est la couleur préférée des Français et en
le
général
bleu.
C'est
la mienne aussi, c'est la basique.
Exactement, mais moi aussi.
C'est pour ça d'ailleurs que c'est conseillé de mettre du bleu dans les maisons pour les architectes d'intérieur. J'ai regardé Stéphane Plaza, voilà.
Le bleu, c'est vrai.
Que vous soyez français ou non, il y a de fortes chances pour que vous aimiez le bleu. En effet, c'est l'une des couleurs favorites dans de nombreux pays, notamment l'Occident.
Je pensais que du coup c'était aussi lié, par exemple, au drapeau. Enfin, c'est une couleur qui est très présente dans les institutions. Le bleu, c'est entre guillemets la couleur un peu nationale. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être lié à ça, mais alors du coup, c'est
vraiment le ciel, c'est tout ça.
C'est une couleur qu'on voit le plus.
C'est pour ça qu'on a du bleu aussi dans le logo de la RCN, voyons.
Voilà, exactement.
Allez, cinquième question. Quelle ville surnomme-t-on la ville éternelle?
Éternelle?
Lyon.
C'est en Europe.
En Europe, c'est pas en France.
C'est pas en France.
Ouais, citer toutes les grandes villes.
C'est quoi le pays?
C'est
Vienne.
Rome.
Non, Milan.
Oui, c'est Rome. C'est Rome. Exactement ça. Mais dis donc, continue.
Mais ça vient d'où?
Faut bien.
J'ai cherché, j'ai pas trouvé d'où ça venait. Bon, je pense que ça se trouve facilement, mais je pense que c'est par rapport surtout à l'architecture, aux monuments,
l'histoire.
C'était la capitale de l'Empire romain et tout. Ça a traversé les âges, c'est éternel comme truc.
Alors, donc, c'était pour parler de la capitale italienne, est née à l'époque impériale afin de célébrer l'Empire d'Auguste, premier empereur de Rome. Voilà, ville éternelle, empire, voilà.
Et voilà. Donc, sixième question. Que signifie l'adjectif volubile?
Volubile.
Ah, le français.
Ça me dit quelque chose et c'est vrai
volubile.
Que c'est pas le
volubile. Il faudrait que
qui est volumineux.
C'est de
volumineux,
la bile qui prend de la place.
Non,
elle
non,
est
non, volumineuse. C'est quand ça décrit une personne.
C'est quelqu'un qui.
Un charlatan.
Au niveau de la parole, non,
exactement.
Il y a, si, c'est ça, il y a quelque chose.
Au niveau de la parole.
Oui.
Qui est à l'aise.
Éloquent. La réponse.
Ouais. Ah oui,
c'est une personne qui parle beaucoup, très vite et avec aisance.
D'accord.
Beaucoup très vite avec aisance.
Beaucoup très vite et avec aisance.
Ok. Voilà.
Donc j'ai essayé de vous trouver une personne
volubile, mais faut qu'on le ressorte en cours de français.
Alan, c'est un peu ça parfois.
Ah ouais, ouais, ah, t'aurais pas dit la même chose si t'étais avec moi à l'oral de bac. Là.
Septième question qui me fait penser beaucoup à une question que nous avons vue la semaine dernière. Comment nomme-t-on un polygone à sept côtés?
Un heptagone.
Moi
je l'avais dit avant. Hein. Avant qu'ils disent le septagone, j'avais dit heptagone.
Bah, de toute façon, ça m'étonne pas que toi.
Je prends le point si tu veux.
Mais t'en as déjà
je te le donne, j'en ai suffisamment.
Merci,
c'est ce cadeau.
Tu es gentil.
Généreux.
J'aide les pauvres.
Allez,
je suis un peu l'abbé Pierre de la radio.
T'en as dit assez, Clément.
Allez, huitième question. Selon la légende, quel savant grec s'est écrit Eureka en prenant son bain?
Putain, c'est lequel?
C'est Archimède.
Mais Archimède, oh, bah, exactement.
C'est Archimède.
Et ben voilà, c'était pas mon domaine.
Exactement, c'est Archimède qui a crié Eureka apparemment dans son bain.
Ah, mais c'est lui la poussée d'Archimède là, dans l'eau.
Oui, bah,
mais oui, on en parlait hier en sauvetage. C'est Juliette, elle me disait, mais normalement, avec la poussée d'Archimède, on devrait réussir à le trimballer, le Gugus.
Ah oui, sous l'eau, oui,
bien sûr.
Ouais, en tout cas, bonne réponse pour Naïm.
Neuvième question, quelle est la taille moyenne d'un Français?
1m73, un truc comme ça.
1m73
pour ouais, les hommes ou 75 mais
bah c'est pour l'être
70.
Humain. Non, mais c'est l'être
75.
Humain.
Non, pour un Français. La taille moyenne d'un Français.
Oui, ou une Française.
C'est
oui,
alors, ça,
mais là, je pense que ça
c'est un 71 ou un 73.
Ouais, un truc comme ça.
Et ben non, c'est 1m77.
Okay. Oh, mais ils sont grands, les Français. Hein.
Tu peux rechercher tes chiffres?
Bah, je sais pas, ça m'a étonné.
Je suis désolé, t'es en dessous de la moyenne. Clément.
Et d'ailleurs, je viens de retrouver cette statistique. En 1906, donc il y a plus d'un siècle, la taille moyenne était d'1m64. Voilà, si vous voulez tout savoir, écoutez, je viens de retrouver.
Bah voilà, c'est juste pas né au bon siècle, Clément.
Et il y en avait
on enchaîne là.
Pour tout vous dire, ça a tendance à diminuer puisqu'en 2016, j'ai trouvé les statistiques. Donc maintenant, je vous les donne. 1m77.
Bah ça, c'est ce qu'il vient de donner en fait, Martin.
Ah, bah, parce que ça a baissé depuis en tout cas.
Écoutez,
les chiffres 2020, ils indiquent plutôt 1m76 et ça a tendance à baisser.
Ils sont pas très grands les Français. Hein. Les Allemands sont fort grands.
Pour revenir au fait que avant l'être humain était petit, c'est vrai que pendant les vacances, je suis allée visiter un château en Alsace. Je sais plus le nom du château. Et avec mes parents, ça fait la remarque que tout était
le
Königsburg.
Oui, bah oui, oui.
Et mais... que du coup, bah, tout était peut-être à la taille de notre famille et qu'on pourrait vivre dans le château.
Alors du coup, bah, justement, les plus grands, c'est qui? Et bah c'est aux Pays-Bas.
Oui, c'est ça.
Ils font 1m82.
Mais c'est bien.
Bah, j'ai trouvé le chiffre. Voilà.
Mais surtout les Pays-Bas, je confirme.
Bah, voilà.
Bah, c'est pour avoir la tête hors de l'eau.
Ouais, mais justement.
Voilà, écoutez, là, j'ai ressorti toutes les statistiques que je pouvais trouver en direct. Voilà.
Bah, nickel. Bon, bah, finissons par la dixième et dernière question, qui est une question sur un animal marin.
Ouais.
Quel animal peut être marteau, tigre ou perle?
Le requin.
Waouh, vous l'avez dit.
Oh, je suis le seul con à pas l'avoir sorti.
Ouais.
Ah, bah, tu m'as dit marteau, bah, je sais
coup,
pas, mais
je sais pas à qui donner le point.
J'aurais plus dit Otini.
Bah, il y a le requin marteau, requin tigre et requin pèlerin.
Requin tigre, c'est pas très gentil. Hein.
Ah, je crois pas, non.
C'est pas très gentil.
Je pense pas que dans ma vie je vais en rencontrer un, mais.
Bah, je te le souhaite.
On sait jamais. Si tu fais de la plongée sous-marine, non, c'est pas ton.
Non, c'est pas mon. C'est pas, c'est
ouais,
pas
c'est pas ton délire.
Avant, des dents de la mer ou un truc du genre.
Ouais, c'est le.
Et bien, merci Lucie pour ce magnifique quiz de culture générale. Clément, un poil plus équilibré aujourd'hui.
Et un poil plus, ouais, parce que c'est Otili qui a gagné le plus de points. Clément,
j'ai pas eu de points. Hein.
Et d'ailleurs,
ah, j'en ai un.
Si t'en as un, bon, je sais plus comment, mais t'en as un en tout cas. Et tout le monde ici a marqué des points quand même.
C'est bien.
Bah, pas Clovis parce qu'il est pas là, mais il y a 3 pour Otili, 1 pour Clément, moi j'en ai 2, et puis Martin Naïm, vous en avez un chacun.
Et bah dis donc.
C'est pas mal.
Je crois que c'est la première fois qu'on fait ça.
Tu vois, je suis altruiste, j'aise des points aux autres.
Ouais.
Et puis la semaine prochaine, vous allez voir, il va nous mettre 10-0. C'est à peu près ça.
Ouais, c'est ça. Et du coup, t'as pas atteint les 50 points, toi.
C'est
total.
Je suis à combien là? 49. Attends, on peut avoir les points, les résultats.
Oh, bah alors, On en a 20 pour Ottilie, 49 pour Clément. Moi j'en ai 22, Martin en a 7 et Naïm en a 10.
Voilà, bah comme ça tout est, voilà, tout est dit. Allez, il faut, on est très en retard, on va passer à la musique désormais. Tu nous parles de Rétro Melon.
Oui, c'est un jeune producteur québécois qui a quand même la particularité d'être né à moitié sourd.
Ah,
ce qui est original dans le monde de la musique. Il a commencé à se faire connaître en remixant des musiques de jeux et de films, donc notamment GTA et La Panthère Rose. Et depuis quelques temps, il s'est mis à faire de la funk. Ce qui tombe bien, puisque dans une de mes toutes premières chroniques, j'avais promis d'en parler. Et je l'ai toujours pas fait.
C'est vrai, c'est fait.
Donc la funk, ça existe depuis le début des années 2000. À l'origine, c'est un genre très sombre qui combine des éléments de hip-hop, de funk et de jazz avec du rap. Cependant, depuis quelques années, il y a un sous-genre de funk qui est devenu très populaire, c'est la drift funk. Donc avec des sons de cloches qui sont saturés, on met de la reverb, enfin on met plein d'effets marrants en fait.
C'était ça.
Et ça fait des mélodies un peu étonnantes.
On l'entend dans la musique.
Et donc maintenant c'est plutôt très électronique, donc comme le morceau qu'on va entendre, et c'est souvent utilisé pour des montages ou sur TikTok ou genre de choses.
Oui, c'est pour plus de la musique de fond.
Oui, voilà.
Que d'accord.
Ouais, et après il y a aussi des vrais morceaux comme celui qu'on va écouter.
Cette blague.
Avec des paroles, tu l'as fait toi-même. Hein.
Donc aujourd'hui on va écouter Nightlife par Rétro Melon, Boost et SOPV.
Oula.
L'âge bête sur RCN.
Il est 14h25, je crois qu'on n'a jamais été autant à la bombe, mais c'est pas grave, on a appris plein de choses dans le quiz de culture générale, alors c'est parti Alain,
du coup, c'est
pour
à
ton
vous de
énigme.
Vous dépêcher, là, vous allez devoir achever ça vite fait. Enfin bref, je vais vous demander d'imaginer que vous êtes dans un jardin ou en train de jouer dans la rue quelque chose et vous croisez un gentil escargot, il est tout mignon, et du coup vous faites « Oh le mignon escargot !» Et du coup vous le lancez dans un trou.
Ouais,
de
ouais,
10 mètres.
C'est normal.
Okay.
De 10 mètres.
Un trou de 10 mètres. Donc. Et l'escargot, le petit escargot, alors il est survivant, hein, on va pas être tragique à ce point-là. Il veut le remonter, bah oui. Ah. Mais par contre, il est très lent. Et en plus, c'est vertical, donc ça aide pas.
Ah, enfin
bref, il monte 3 mètres par jour dans la journée, et puis il doit se reposer, il dort la nuit. Sauf qu'il glisse. Il glisse d'un mètre pendant la nuit.
Oh non,
et en plus, ensuite, au jour suivant, il est fatigué, donc il en monte que 2 mètres. Donc il enchaîne entre 3 mètres, puis 2 mètres, puis 3 mètres, puis 2 mètres chaque jour. Et chaque nuit, il baisse d'un mètre. Donc à quel jour il va remonter au bout?
Jour 9.
Non. Ah, balance pas des trucs sans rien faire, vraiment.
Ah bah si.
Jour 10, jour 11, 7.
Jour 12. 13, 14, 15, 16. Arrêtez de gueuler, là.
Tous les
2
jours, il avance que 2 mètres.
C'est ça. Non, et 3, le reste, 3, et il glisse d'un chaque nuit.
C'est 7.
Bah ça fait 7, ouais, c'est ça.
Non.
Fait
6.
Non.
6.
Ah bon.
Ouais.
Ah c'était moi.
Merci Clément qui n'a rien calculé, c'est 6. Bah si vous voulez, il fait 3 mètres, puis 2 mètres, puis 4 mètres, puis 3 mètres, puis 6 mètres, puis 5 mètres, puis 7 mètres, puis 6 mètres, puis 9 mètres, puis 8 mètres, puis 10 mètres.
Est-ce que la solution des maths finalement ne serait pas de pas calculer en fait?
Non, mais parfois
c'était vraiment une mauvaise solution et je te retire tous tes points de culture générale pour ça.
Ah, mais ça fait 2, 1, 2, 1, 2, 1, ça fait 9 en 6 jours. Et après le dernier jour il en...
Non parce qu'il finit par un 2. Donc ça achève le 7, on en a pas besoin en fait, il glisse pas après. Donc il n'a pas besoin de son jour.
C'est vrai, l'escargot redescend un peu une fois qu'il est arrivé en haut. C'est
ça.
On aura parlé d'escargot dans cette émission, on a tout fait.
Ah ok, j'ai compris, c'est bon. Voilà.
Ça y est.
Oh, wow. Ouais.
Non mais bon, c'est le temps que ça monte. Hein.
Oui.
Voilà.
L'escargot.
Bon. c'était la chronique la plus radiophonique du monde. On va passer à la citation pour terminer
voilà,
cette émission.
On va faire court pour la présentation. On va juste dire que c'est un sketch de Danny Boone sur La Poste qui est très réaliste.
Donc c'est parti donc, pour la citation.
À la poste, c'est les spécialistes de la queue qui n'avance pas. C'est eux qui l'ont inventé, la queue qui n'avance pas, et après ils ont été copiés par tous les services publics. Et il y a une explication à ça. C'est qu'à la poste, quand on regarde bien, sur 10 guichets, il y en a 1,5 d'ouverts. C'est les autres, ils sont jamais ouverts. Jamais, jamais. C'est des guichets de secours.
Comme à la SNCF.
Sûrement, quand il y en a un qui fonde, c'est sûrement... Ils l'ont construit comme ça, c'est pour en secours. C'est comme si nous, on avait 4 cuisines, 3 secours. Donc t'as le guichet qui est ouvert en plein, qui est là, avec la vitre et tout, le guichet, le, voilà, avec la queue, il y a toujours la queue à la poste, hein. S'il n'y a pas la queue, c'est que c'est fermé. Donc,
et la encore.
Queue, qui fait des serpentins, ça marquait, ça fait des... La queue de la poste, ça fait des petits serpentins. Ça arrête tout droit, parce qu'à la sécu, ça fera un bordel de queue.
Voilà pour cette citation. Elle date de quand, tu sais?
Elle date d'il y a longtemps, mais il l'a refait, en fait, parce que c'est drôle.
Voilà, la blague sur la poste et les services publics. Voilà, il est 14h28 sur
RCN
et on est à l'heure. Franchement, c'est formidable. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. On retrouve Clovis la semaine prochaine pour la chronique écologie.
Nickel.
Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis à la semaine prochaine, l'équipe.
À la semaine prochaine.
Merci à Mathis à la technique aujourd'hui.